pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau, Nabassaran.
Vous, notre but aujourd'hui, c'est de visibiliser le terminal agro-industriel du port de la Palisse qui se sert notamment de ce silo pour faire de la spéculation avec les céréales exportées dans le reste du monde. Les ports de la Palisse, c'est le deuxième port d'exportation de céréales de France. C'est un endroit où il y a beaucoup d'enjeux, c'est pour ça qu'on a intérêt à le bloquer aujourd'hui pour visibiliser ce chaînon de l'extractivisme et du post-colonialisme.
Et tout le monde déteste la Palisse. Et tout le monde déteste la Palisse.
Samedi 20 juillet 2024, La Rochelle. Manifestation anti-agro-industrie organisée par Bassine Non Merci, les soulèvements de la terre avec bien d'autres collectifs. Partie d'un grand parc près du stade de La Rochelle, près de 10 000 manifestantes et manifestants se scindent en deux cortèges. J'ai cru comprendre au briefing que le cortège nord comprend des personnes disposées à défendre la manifestation si la police intervient violemment contre elles. Le cortège sud, en front de mer, est annoncé cool, familial et rigolo. Une cohorte de gens armés, de serviettes de plage, bouées et autres matelas gonflables, prend cette direction qu'on va suivre aussi.
Et d'habitude, d'aller à la plage, vous savez, mais en tête de cortège, il y a une distribution générale de billets. Vous pouvez venir chercher votre billet, il a gonflé, et on va continuer ensemble.
Objectif des cortèges, le port de la Palisse. Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off et ce nouveau chapitre de notre série Village de l'eau. Suite du reportage sur la grande manif action du samedi 20 juillet 2024 dont on vous racontait le début au précédent épisode, tout le monde déteste la Palisse, balance ton port de commerce impérialiste, colonial et négrier.
De visibiliser le port de la Palisse, qui est le deuxième port exportateur de céréales de France, qui va être agrandi en raclant des fonds marins, en parallèle de la construction des méga-bassines. Ces deux choses-là vont de pair, construire des méga-bassines, s'accaparer l'eau et la privatiser, pour faire marcher l'agro-industrie qui ensuite envoie des céréales à l'export. Ça met des sous dans les poches de la finance, qui fait spéculer le prix du blé et du maïs. En plus, le port a 50% de son activité, c'est la question de l'énergie, avec Total sur le port, CGH, GMA, et puis Bolloré sur sa filière énergie. On reste groupés et on avance tranquillement le long de la côte. On applaudit les amis en mer sur leurs kayaks et leurs catamarans.
Bonjour, peux-tu nous rappeler qui tu es? Tu as pris la parole tout à l'heure.
Je suis Emma Fourreau, je suis députée européenne pour la France Insoumise. On place l'écologie au cœur du programme, c'est pas juste sur un secteur, c'est que ça doit infuser sur toutes les politiques publiques qui sont menées. Et là, en l'occurrence, on porte la question d'un moratoire sur les projets de méga-bassines, parce que c'est de la maladaptation des règlements climatiques, c'est justement avec de l'argent public qu'on veut juste faire profiter quelques céréaliers très riches au détriment de la ressource en eau, qui doit être un bien commun. Et le problème des méga-bassines, c'est qu'en fait, non seulement on capte dans les nappes phréatiques, mais qu'en plus, l'été, l'eau s'évapore, donc c'est du gâchis d'eau qui ne bénéficie pas aux paysans et aux paysannes, parce que c'est moins de 10% de l'agriculture en France qui est irriguée. Donc nous, on dit qu'il faut changer de modèle agricole, sortir de l'agro-business et justement venir sur un modèle beaucoup plus respectueux à la fois de la terre et de l'eau et de ceux qui la travaillent, qui travaillent avec ces éléments-là, donc les paysans et les paysannes. Et pour ça, il faut faire de l'agriculture paysanne, locale, biologique. Et c'est aussi pour ça qu'on est au port de la Palisse, parce qu'en fait, derrière la construction des méga-bassines, on a aussi l'agrandissement du port, parce que derrière, c'est des céréales qui sont exportées ailleurs qu'en France. Et en fait, c'est le libre-échangisme et le capitalisme mondialisé, en fait, qui est à l'œuvre derrière le modèle actuel. Et donc là, on manifeste aux côtés des soulèvements de la terre, de Bassines Non Merci et d'un tas d'autres organisations pour être solidaires de la lutte et pour dire qu'il faut écouter les paysans et les paysannes qui disent qu'il faut changer de modèle, que c'est urgent pour leur santé et pour la planète.
Ouais, je vais faire mon journaliste. Ah, la France insoumise, vous êtes violent, vous manifestez dans une manifestation interdite avec des éco-terroristes qui sont même pas foutus de mettre le feu eux-mêmes à un champ, qui demandent aux forces de l'ordre de le faire.
Nous, on est là pour défendre le droit de manifester qui est aujourd'hui effectivement mis en danger, brutalisé par les macronistes, par Darmanin qui donne des ordres au préfet. Et aujourd'hui, on voit très bien de quel côté est la violence. Parce que comme tu dis, qui a mis le feu au champ, qui a mis en danger des milliers et des milliers de manifestantes et manifestants? Eh bien, c'est les gendarmes en tirant sur un champ et ils savaient très bien que ça allait mettre le feu. Donc on voit bien qui met en danger qui dans ce pays. Et donc nous, on est pour une réforme radicale de la police, la changer de la cave au grenier, parce qu'aujourd'hui, c'est une doctrine de l'escalade qui met en danger tout le monde et qui n'est pas là pour défendre le peuple et le protéger. Alors que normalement, la police, elle est au service du peuple et le peuple, il est dans la rue. On voit qui est en face, quoi.
Tu disais que cette agro-industrie ne profite pas aux paysans paysannes, mais elle ne profite pas non plus à une majorité de petits exploitants agricoles qui sont à la FNSEA ou à la CR.
En fait, la FNSEA vole le débat qu'il y a sur la question agricole. La FNSEA roule pour une poignée justement de gros exploitants, de gros céréaliers. Et la vérité, c'est qu'il y a bien des paysans, des paysannes qui devraient se reconnaître plutôt, notamment dans la Confédération paysanne, parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui pousse au surendettement des agricultrices et des agriculteurs, et donc ce sont des gens qui veulent bien faire, mais qui sont forcés à toujours s'agrandir, à avoir toujours plus d'animaux par exemple, et en fait c'est jamais à leur bénéfice parce qu'ils touchent beaucoup moins qu'un SMIC, hein. Quand on voit qu'ils travaillent sans pause, sans relâche, jour et nuit, pour parfois 800 balles, voire moins, c'est du malheur au travail, c'est un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, donc aujourd'hui, le modèle agricole, il nuit à la santé des paysans, il nuit justement à leur travail. Et donc c'est aussi une bataille culturelle à mener de dire mais en fait aller vers une agriculture paysanne et biologique c'est avant tout aussi pour les agricultrices et les agriculteurs eux-mêmes.
En ce qui concerne les méga-bassines, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est un moratoire et ça se passe devant quelle instance ?
Alors c'est une proposition de loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise. Donc c'est la députée Clémence Guettet qui a porté cette question-là. Et un moratoire, ça veut dire qu'on ne construit plus aucune méga-bassine tant qu'on n'a pas justement leur impact écologique, tant qu'on n'a pas fait d'études approfondies sur la question. Et nous, on a un avis bien tranché sur ce que c'est qu'une méga-bassine, hein, parce qu'en Espagne, c'est généralisé et on voit que c'est une catastrophe. L'Espagne se désertifie, hein, ça devient terrible là-bas. Ce sera peut-être le premier désert européen. Et on a des taux d'évaporation de l'eau, parfois jusqu'à 60%. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc nous, on est pour l'arrêt de tous ces projets et pour non seulement ne pas en construire davantage, mais ceux qui sont en cours de construction, tout arrêter.
Donc ça veut dire que la camarade députée, là, devant l'Assemblée nationale, va...
Ce texte.
C'est une proposition de loi d'interdiction de cette pratique.
Tout à fait. Et ça n'a pas été voté parce que, main dans la main, les macronistes et le RN ont voté contre. Alors qu'ils se prétendent premiers défenseurs des agricultrices et des agriculteurs, mais quand on regarde leur vote, on voit qu'ils votent juste pour la poignée de plus riches au détriment de tous les autres.
Peut-être que nous allons obéir à la consigne qui a été donnée de rester un peu groupés et compacts et rejoindre cette horde de dangereux éco-terroristes équipés de bouées en forme de canard ou de licorne. Il y en a certains qui ont des maillots de bain odieux. Je me sens parfaitement en insécurité.
Je comprends moi aussi, hein. Vraiment, je pense qu'il faut s'éclipser très vite. Que fait la police ? Non mais c'est ridicule, quand on voit qu'ils nous envoient des drones, des hélicoptères, qui sont des milliers de flics présents sur place alors qu'on est tous pacifiques et qu'on est là justement juste pour protéger des biens communs. C'est quand même ça dont il s'agit aujourd'hui. Les terroristes, c'est par exemple Daesh, hein, qui a financé très clairement du terrorisme et qui contribue à la bétonisation de ce monde.
Daesh, c'est les gens qui travaillent avec les bétons Lafarge, hein, c'est
tout
ça.
Tout à fait, c'est ça. Et qui ont été condamnés par la justice américaine. Hein, donc c'est pas des spéculations des éco-terroristes qui essaient de leur jeter la pierre. C'est la justice qui a tranché. Donc ça a été prouvé, ça. Donc je pense que Darmanin se trompe de cible, là.
On parle beaucoup de la destruction des services publics qu'on peut voir tous les jours, que ce soit à la poste, dans les trains, dans les hôpitaux, etc. Mais finalement, dans la police aussi, parce que de ce qu'on appelle les forces de l'ordre aussi, dans la gestion de la manifestation d'hier, il semble qu'il y ait eu des pataquès, des manques d'informations. Il paraît qu'il y avait des troupes au sol qui ne savaient pas combien étaient les manifestants. De toute évidence, des manques de coordination, de machin. Enfin, si même la police tombe en quenouille, mais comment on va faire Macron et sa bande pour rester au pouvoir ? La prochaine fois que les gilets jaunes vont aller sonner à l'Elysée, ça va être compliqué pour faire tampon.
Mais le macronisme, c'est le chaos, c'est le bordel, hein. C'est ce qu'on essaie de dire. Et il n'y a que la gauche qui peut ramener un peu d'ordre dans ce pays. Et l'ordre, c'est quoi ? C'est la justice sociale, c'est la redistribution des richesses, c'est la bifurcation écologique. Leur méthode du tout répressif conduit à l'exact inverse, c'est-à-dire au chaos dans le pays. Quand on voit les cures d'austérité qui plongent des millions de gens dans la pauvreté, c'est ça le chaos, c'est ça la violence, c'est la violence sociale.
J'ai pu le constater en traversant divers barrages de police. Alors on tombe effectivement sur des fonctionnaires de police ou des gendarmes très zélés, parfois pas très amènes. Bon, ils sont pas forcément payés pour ça, enfin je sais pas, quoique faut voir qui est au pouvoir dans ces moments-là. Mais il m'est aussi arrivé de me faire contrôler par des gendarmes qui faisaient comprendre, me semble-t-il, alors j'ai mal interprété, que ça les faisait royalement chier de faire ce qu'on leur demande de faire en fait. Il y en a un qui a vaguement, mollement fouillé mon sac et qui m'a demandé si j'avais une lampe torche pour cheminer dans les champs. Je lui ai dit, toi t'es en train de me dire que ça t'emmerde de faire ce qu'on te demande de faire.
Évidemment. Et moi quand j'ai fait de la garde à vue dans le cadre de la réforme des retraites, alors que les flics du coup nous avaient arrêtés, nous avaient mis en cellule et tout, j'avais devant moi des flics qui se plaignaient de la réforme des retraites en disant mais je suis épuisée, j'ai pas envie de faire ça, 4 ans de plus, 2 ans de plus. Donc même eux en ont marre en fait, donc il est peut-être temps de changer.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Quelle merveilleuse journée et quelle belle balade sur ce front de mer.
Il fait très beau, pas trop chaud, donc tout va bien.
Alors tu n'as pas apporté de maillot de bain ou de bouée en forme de canard ou de licorne, mais par contre tu as apporté une écharpe tricolore.
Moi je suis sénateur écologiste du Rhône, c'est pour ça que je porte mon écharpe ici. À La Rochelle.
Europe Écologie
Les Verts. Europe Écologie Les Verts. Je suis dans le groupe écologiste au Sénat.
Tu as pris la parole tout à l'heure avec
ouais,
les autres.
Ouais. Je trouve que c'était d'abord très enthousiasmant de voir tout ce monde qui a bravé les différents contrôles, qui a bravé les intimidations policières et qui sont quand même venus manifester. Donc ça, c'était enthousiasmant quand même de voir autant de monde. Et puis après, j'ai rappelé une chose, c'est que certaines des revendications, comme le moratoire sur les méga-bassines ou celui sur les projets autoroutiers, sont dans le projet du nouveau Front Populaire. Et donc c'est quand même une première victoire déjà de ces mobilisations. Nous, c'est des revendications qu'on portait depuis longtemps, mais que nos partenaires, notamment socialistes, n'avaient pas inscrit au programme.
Mais quelle surprise!
Et cette fois-ci, c'est au programme de la gauche tout entière, et donc il va falloir qu'on garde ces revendications à l'intérieur du programme de la gauche, il va falloir que ces mobilisations continuent, puisque rien n'est jamais gagné, vous le savez, et que tout se joue aussi dans les mobilisations extérieures, et que les institutions ne suffisent pas, il faut qu'il y ait une gentille pression externe pour que tout ça puisse se mettre en branle, et donc nous, on compte sur les mobilisations pour garder ces sujets à l'agenda politique, et donc merci à toutes celles et ceux qui se mobilisent et qui se mobiliseront à l'avenir.
Tu dis gentille pression populaire, allez, je vais t'offrir une petite séance de média training. Ouais, tu sais que ce qu'on appelle les journalistes, enfin disons les communicants des médias dominants qu'on paye parfois avec nos impôts, donc deux questions à la bouche, hein, à des grévistes, vous prenez les gens en otage, et à des gens qui font ce type de manifestation, vous êtes violents. Ouais. Donc, ELV les Verts, hein, vous prétendez être écolo, aimer les colibris, et vous marinez avec des éco-terroristes.
C'est ça. Ce qu'on a vu hier, c'est que la violence, elle vient pas forcément des manifestants. La violence qu'on a vue hier, elle s'est exprimée plutôt du côté des forces de l'ordre. Le niveau de violence est souvent fixé par le dispositif de maintien de l'ordre en lui-même. Moi, j'étais à Sainte-Soline il y a un an.
Encore une manifestation interdite, mais tu aggraves ton cas.
Oui, mais moi, j'exerce mon droit de manifester dès que je peux. C'est mon rôle aussi de parlementaire écologiste d'être dans ces mobilisations-là, quoi qu'il arrive. Bon, effectivement, il y a dans ces manifestations parfois de la violence et des éléments violents. Moi, je suis là pour manifester, je ne suis pas là responsable de ce qui se passe partout dans cette manif. Je ne me sens pas porter la responsabilité des actions des uns et des autres. Moi, là, je suis dans un cortège avec toi, non violent, on peut discuter tranquillement en marchant. On est plutôt apaisé et paisible, donc moi, c'est ce genre de mobilisation qui m'intéresse, plus que la confrontation directe avec les forces de l'ordre, qui a peu d'intérêt autre que de provoquer des blessés aussi chez nous. Est-ce qu'on est revenu un certain nombre de Sainte-Soline un peu traumatisés par ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu? Et on espère qu'on ne revivra pas ça, en tout cas ce niveau de violence entre les forces de l'ordre et les manifestants, de sitôt.
Je crois que le reportage que je faisais là-bas s'est interrompu quand j'ai interviewé un de tes camarades sénateurs écologistes. Et là, on a dû arrêter l'interview puisque une grenade assourdissante, ça fait quand même beaucoup de bruit.
C'est ça.
Et celle pleine de gaz, ça empêche de parler en fait.
Ouais, les chars tricolores ne protègent pas des gaz lacrymogènes ni des grenades assourdissantes. Oui. On a même eu du mal à faire venir les secours quand on était à côté des blessés, malgré nos rapports en lien direct avec la préfète, à ce moment-là à Sainte-Soline. On a mis du temps à pouvoir faire venir des ambulances en leur expliquant qu'il n'y avait aucun danger. Donc c'est tout le débat évidemment que vous avez vu derrière sur est-ce qu'il y a eu entrave aux soins ou pas. On était là et on espère ne plus jamais revivre ça. Là, c'est pas le cas, donc tout va bien.
Alors la camarade insoumise nous expliquait tout à l'heure ce qu'est un moratoire, mais voilà, une fois de plus, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Un moratoire, en fait, c'est une question qui est posée à l'Assemblée nationale pour fabriquer une loi, par exemple, pour interdire des projets inutiles type autoroute ou méga-bassine.
Le moratoire, c'est d'abord une suspension de tous les projets. On dit, bon, on s'arrête. et on réfléchit. C'est ça que ça veut dire un moratoire.
Oh, ça fait un peu en 0 hein, tout
exactement,
ça.
Exactement, hein. Exactement. Un moratoire sur les méga-bassines, c'est que tous ces projets-là, on arrête. Et maintenant, on essaye de trouver d'autres solutions et un autre modèle agricole. C'est ça l'objectif. C'est la même chose pour les projets routiers. On arrête ces projets parce que la France est déjà couverte de routes. On est un des pays en termes de kilomètres par habitant qui est le plus élevé. Donc tous ces projets, on arrête d'en faire des nouveaux et on essaye de réfléchir à un autre modèle de mobilité. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais d'abord, on suspend tous les projets, donc la 69, donc un certain nombre de projets routiers débiles, et on commence à réfléchir à faire autrement.
Et ça, c'est une loi.
C'est ça. Ça doit passer par un texte de loi pour dire stop à ça. Et puis, on construit après un autre modèle de déplacement ou alors un autre modèle agricole pour pouvoir se passer de ces méga-bassines. D'où l'enjeu d'avoir un nouveau Front populaire qui puisse gouverner. D'où l'enjeu d'avoir rapidement un nom de Premier ministre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de députés aussi aujourd'hui, parce qu'ils sont tous à Paris en train de discuter de ça. Et on espère que ça va avancer très vite.
Le Sénat, il joue un rôle là-dedans?
Le Sénat est plutôt réticent à tout ça. On va dire que le Sénat est une terre aride à l'écologie, mais qu'on essaye avec notre petit groupe de 16 sénateurs écolos de maintenir ces questions à l'ordre du jour. C'est pas tous les jours simple parce que les sénateurs qui défendent un modèle agricole destructeur, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais ça sert aussi d'avoir des sénateurs écolos pour continuer de porter cette voix-là, même y compris dans les endroits obscurs de la République.
Vous parlez entre vous-même quand vous n'êtes pas du même bord?
Bien sûr, le Sénat est quand même un lieu républicain. On arrive à bavarder et à discuter en toute intelligence les uns avec les autres. Après, les postures dans l'hémicycle sont un peu différentes, puisque certains sont liés à des intérêts par leur territoire, où il y a énormément d'agriculteurs parfois intensifs, qui tiennent aussi les cordons de la bourse. C'est-à-dire ils ont les collectivités avec eux, les chambres d'agriculture, et donc derrière, il y a des sénateurs qui défendent ce modèle. Il y a un sénateur qui s'appelle Duplon, qui est un sénateur d'Auvergne, qui a assumé devant les caméras de France Télévisions d'être le lobbyiste de la FNSEA. Il l'a assumé pleinement, au moins c'est clair, mais quand on discute avec lui, on peut discuter autant qu'on veut. Derrière, quand il faut voter, on sait ce qu'il va voter et c'est pas forcément ce qu'on défend. C'est parfois un peu désespérant, mais et on n'est pas élu pour être dans une zone de confort. Hein. Donc on y va et on porte le sujet. Moi, quand j'ai interpellé Gérald Darmanin dans l'hémicycle question gouvernement après Sainte-Soline, j'ai pris une bronca assez forte pour participer à cette manifestation, mais c'était mon rôle aussi d'y être et mon rôle d'interpeller le ministre de l'Intérieur quand on a vu le fiasco du maintien de l'ordre ce jour-là. Donc voilà, on tient notre rang et on espère qu'on sera un plus grand groupe plus tard, mais pour l'instant, voilà, on est un petit groupe d'écolos au Sénat et on fait ce qu'on peut.
Concernant le personnage que tu viens de mentionner, une plainte a été co-signée par tout un tas de gens. En faisais-tu partie? Pour mensonge, Gérald Darmanin a menti comme un arracheur de dents sur Sainte-Soline.
Je ne crois pas l'avoir signé, je l'ai pas vu passer, mais moi j'ai déjà interpellé là-dessus sur ses mensonges, des mensonges qu'il a fait au Sénat, en audition au Sénat. J'ai été aussi auditionné par l'inspection générale de la gendarmerie, parce qu'il y a une plainte de plusieurs militants qui étaient à Sainte-Soline qui ont porté plainte contre la gendarmerie nationale, donc j'ai été aussi auditionné pour ça. On essaye de faire la démonstration de ces mensonges-là autant qu'on peut. On n'a pas la machine gouvernementale derrière nous pour le faire, mais on arrive quand même régulièrement à les mettre face à leurs contradictions. Gérald Darmanin, ce n'est pas son seul fiasco. Moi, je l'avais auditionné sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions où les supporters anglais s'étaient fait gazer pour rien. À chaque fois qu'il y a de la gestion de foule, il ne sait pas faire. Donc, il ment régulièrement. On essaye de le mettre devant ses mensonges régulièrement. Mais il faut savoir que dans notre République, le gouvernement est quand même assez protégé, et lui en particulier, il peut mentir sans trop de répercussions. C'est ça qui est assez triste, y compris devant la représentation nationale, y compris devant des sénateurs qui savent qu'il ment, mais qui l'encouragent là-dedans, puisque c'est il ment en défendant un modèle qu'ils défendent aussi. Donc voilà, l'enjeu maintenant, il est de savoir comment on rend ces ministres plus responsables. Là, on est dans une situation encore plus compliquée. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur, actuellement, qui n'est plus responsable devant le Parlement, puisqu'il est démissionnaire. Donc là, il peut se passer ce qu'il veut ici. Il ne sera pas responsable puisqu'il est démissionnaire, et donc on est dans une situation très compliquée en termes d'équilibre des pouvoirs, puisqu'on ne sait pas qui est responsable actuellement du maintien de l'ordre sur cette manifestation par exemple.
On est parti pour certains de mail ce matin. On avait fait 1h30 de voiture pour venir ici, sans parler des contrôles de police que l'on subit depuis une semaine. Et on est là, malgré l'interdiction de se rassembler, malgré l'interdiction de manifester, malgré l'interdiction de naviguer, on est là, on est tous ensemble. Plusieurs informations. La première, c'est que le deuxième cortège a quelques problèmes avec les forces de l'ordre qui les empêchent d'avancer, et certains vont nous rejoindre. Et nous, il va falloir qu'on les accueille comme il se doit. Ça, c'est important. La deuxième information, c'est qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut aller, vous voyez. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de visibiliser le terminal agro-industriel du port de la Palisse qui se sert notamment de ce silo pour faire de la spéculation avec les céréales exportées dans le reste du monde. Est-ce que vous voyez des silos ici? Pour les voir, il faut qu'on aille sur la plage d'à côté, c'est la place de Chef de Baie. On n'est pas loin et on peut y arriver ensemble. Les kayaks vont nous suivre par la mer. Pour les personnes qui ont envie qu'on se rapproche encore et qu'on visibilise ces silos, on va y aller ensemble.
On va continuer par la terre pendant que nos amis kayakistes continuent à nous suivre par la mer.
Et en plus de ça, il faut protéger non seulement les camarades qui arrivent, mais aussi les tracteurs qui sont venus de loin l'Atlantique, qui ont réussi ce matin à bloquer l'entrée d'un grand céréalier. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Les personnes qui souhaitent continuer, on se donne rendez-vous au niveau des catamarans. Et pour ceux qui veulent rester, eh bien restez, profitez de l'eau, profitez d'être ensemble. Et s'il vous plaît, réservez un accueil pour nos camarades de l'autre cortège qui vont arriver. Merci à tous et toutes. Nos camarades.
Nous faisons très attention à vos pieds, il y a beaucoup de peintures. Donc faites attention
à vos pieds quand vous allez sur la table et dans l'eau, s'il vous plaît.
Ce monsieur qui joue le chant des partisans en boucle à l'accordéon, c'est pas la première fois qu'on le croise sur une manif anti-bassine.
On sait pas lequel ils arrivent. On attend un petit peu. On prend le temps à se baigner, de se poser, de manger en bout, de boire. On attend de leurs nouvelles pour pouvoir décider ce qu'on fait ensuite.
Alors on vous le disait, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a deux cortèges qui sont partis du parc, il y a un cortège nord et un cortège sud. On nous avait annoncé que le cortège sud en front de mer, c'était le cortège rigolo, cerné de bouées en forme de canard, de licorne. On a vu un crocodile en plastique aussi. Cortège nord, ça a l'air par contre beaucoup moins rigolo, il est question de violences policières, de gazage, de manifestants et manifestantes maltraités. Et on n'arrête pas de vous parler du soin et de l'attention portée à l'autre ici sur ce mouvement, sur ce village de l'eau, par Bassine Nanmercy et les soulèvements de la terre. On vous a parlé de ces délicieux sandwichs fabriqués au village de l'eau qui ont été distribués pour le midi. Le soin continue puisque ici il y a une caravane, il y a des gens qui tiennent ce barnum ambulant, des morceaux de gâteau, du pain d'épices, des jerrycans pleins d'eau qui sont alimentés à l'école de voile. Bonjour camarade.
Bonjour.
En plein cagnard, on est sur cette jetée. Alors merci pour ce point ambulant où des morceaux de gâteau, de pain d'épices et de l'eau sont distribués aux copains.
Ouais. Bah oui, nous on est la Cagette des Terres.
La Cagette des Terres.
Voilà, c'est un réseau de ravitaillement des luttes. On est basé en Pays Nantais, ça fait des années qu'on fait ça. C'est de ravitailler les luttes. Des grèves de cheminots ou des manifestations retraites ou des mobilisations comme celle de Bassine Nanmercy ou des soulèvements de la terre. L'idée, comme cet été, c'est d'accompagner les gens, de les enjailler avec de la musique, notamment par exemple quand on fait du convoi vélo et qu'il faut pédaler, que c'est dur sous le soleil et qu'il y a des bornes et des bornes, et de les nourrir quoi.
Comment c'est né ce truc-là?
C'est né un peu sur un truc qui a existé il y a une époque où, qui s'appelait les paysans travailleurs. Et du coup l'idée c'est un peu de faire le lien entre les paysans et les ouvriers. Si on prend la situation des paysannes, elles ne peuvent pas faire grève. Elles ne peuvent pas arrêter leur activité. Nous, le but, c'est de faire le lien et de pouvoir demander aux paysans paysannes de fournir les luttes. Et du coup, on va les rencontrer, on leur demande des produits, que ce soit du lait, du fromage, du pain, des légumes, de la viande. Et nous, on va les fournir aux ouvriers sur des piquets de grève, par exemple. Et ça peut prendre la forme de cagette, c'est pour ça que ça s'appelle la Cagette des Terres. Plusieurs fois, on allait sur des piquets de grève et quand les ouvriers et les ouvrières, ça fait un mois qu'ils sont en grève et qu'ils n'ont plus de salaire et qu'ils ont des familles à nourrir et que c'est compliqué, et ben, nous, on arrive avec des cagettes de légumes, de crêpes, de galettes, de bières. Et on leur donne gratuitement en soutien de leur lutte et pour qu'ils continuent à lutter. Et puis aussi pour créer du lien, du réseau et de la solidarité entre toutes les obédiences politiques possibles. On est beaucoup en lien avec la Confédération Paysanne, notamment par rapport aux valeurs qu'ils prônent et qui est un peu le seul syndicat potable, on va dire. On travaille aussi beaucoup, surtout avec des paysans et des paysannes autonomes qui se revendiquent d'aucun syndicat et qui sont déterminés et qu'on a pu voir beaucoup avec leurs tracteurs ici. des réseaux de ravitaillement, il y en a, donc nous on est à Nantes, mais il y en a aussi à Rennes et il y en a aussi à Angers en lien avec des cantines. On est en train de commencer à faire que ça se propage partout en France parce que la situation des gens est de plus en plus compliquée, que ce soit sociale, économique et la précarité est de plus en plus grande. Et du coup, créer des réseaux de ravitaillement militants, autonomes, etc., on pense que c'est la solution. Bientôt, on va lancer un appel à créer sur la manifestation. Il y a l'Asbelunet qui est un outil, qui est une remorque avec laquelle on va en manifestation, ce qui permet de mettre du son, des concerts en live, des fois des glaciers qui viennent en manifestation au milieu des gaz, c'est arrivé des glaces aux manifestantes. Et on va lancer un appel bientôt à créer des Asbelunet un peu partout en France. Parce qu'on a envie que les préfectures... Elles galèrent, qu'elles se disent la CFDT c'est réglé, la CGT on est en train de négocier, mais les Asbelunet on n'arrive pas à les gérer, c'est le bordel. Et donc il y a un appel qui va pas tarder je pense, et il y aura une Intersbel où on invitera plein de gens et plein de collectifs partout en France à se saisir de Asbelunet, à se saisir de réseaux de ravitaillement. Lors de cette Intersbel, il y aura une Asbelunet à gagner gratuitement avec un groupe déterminé à en user et à propager ça quoi.
Ce qui est bien c'est que le petit morceau de pain d'épices, le verre d'eau, ça apporte aussi du bien-être psychique en fait. C'est-à-dire que vous nourrissez pas seulement les corps, finalement aussi les cœurs et les esprits. Enfin, c'est une manière de dire merci en fait.
Hein. Bah oui, carrément, c'est ça. C'est important pour nous d'enjouer les gens dans la manifestation et de pouvoir leur proposer autre chose et de les chauffer et de. Enfin voilà.
Est-ce que tu as eu, alors ici on est au sud là, est-ce que tu as eu des nouvelles du cortège nord?
Oui, je sais que ça a été plus rude. Les derniers manifestants les plus déterminés se sont fait nasser et ils commençaient à se faire interpeller.
En tout cas, bonne continuation et merci d'être là.
Merci beaucoup. Ciao. Et pour des Asbelunets partout en France et dans le monde.
Solidarité avec le cortège nord, ici c'est fait gazer.
Sur le front de mer de La Rochelle, le cortège sud est enfin rejoint par les gens du cortège nord.
Bonjour camarade.
Salut.
Tu étais dans le cortège nord là-bas, alors c'est pendant ça. Que nous on se dorait la pilule dans le cortège sud. Apparemment vous avez moins rigolé que nous.
Ouais, c'était assez intense. Enfin, on a commencé à avancer tranquillement dans la rue qui était prévue et tout ça. Il y avait un petit peu des décorations qui étaient faites sur les bords de la rue. Et,
tu veux dire sur les banques ou les agences immobilières?
Voilà, il y avait des choses comme ça qui étaient visées, des banques, des pubs, des supermarchés. Et ensuite, il y a un moment où les flics ont commencé à gazer et en fait, on était bloqués, donc on ne pouvait plus avancer ni d'un côté ni de l'autre. Et là, ils ont énormément gazé et tout le monde était bloqué en masse regroupée, on était hyper serrés. Tout le monde suffoquait quoi et c'était très très douloureux et intense. Heureusement, on a fini par pouvoir s'échapper quoi par des rues sur les côtés.
Vous étiez nombreux,
hein? On était ouais, très nombreux, nombreuses, je sais pas combien, mais des plusieurs milliers.
Et toi, ça va?
Moi, ça va, ouais, mais je crois qu'il y a eu quelques interpellations. À un moment, en tout cas, on nous a dit 5 interpellations. Et j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés importants et que les gens vont bien, mais j'en sais pas plus précisément.
Vous, gens du cortège nord, si tu me permets, vous avez fini par rejoindre le cortège sud.
C'est ça, après, on a dévié, on n'est pas allé en direction du port de la Palice. On a été en direction de la mer où on a retrouvé au niveau de la côte le cortège sud avec les tracteurs des paysans paysannes.
D'accord, donc l'objectif d'atteindre le port de la Palice n'a pas été atteint.
En tout cas, nous, le cortège nord, non, on n'a pas pu l'atteindre pour l'instant.
Et qu'est-ce que tu comprends de la situation actuelle, là, maintenant que les deux cortèges se sont rejoints? On se dirige vers le parc?
Oui, a priori, là, les deux cortèges se sont rejoints. On est le long de la mer. Et il semblerait que les policiers bloquent au niveau du parc où on a commencé la manifestation, mais on n'en sait pas plus précisément. Là, il y a des petits bateaux gonflables, je ne sais pas s'ils vont être mis à l'eau. On va voir ce qui se passe.
Les deux cortèges réunis sur le front de mer sont cernés, quasiment immobilisés.
Deux blindés derrière le port, vers le centre nautique!
Qu'est-ce que tu as compris de la situation là?
La répression quoi, qui arrive à grands pas vers nous. A priori, on parle maintenant de blindés derrière le parc, ce genre de choses. Restons groupés, quoi. C'est l'idée. Le banc de poissons se protège comme ça quand tu as les méchants requins qui nous attaquent. C'est la seule façon de se protéger maintenant, c'est celle-là. Je vais attendre les indications. Tu vois, voilà. Dernière sommation, donc les gaz arrivent. Ils ne peuvent pas supporter. On est désobéissants. Et il faut nous faire montrer qu'on est désobéissant.
Mais là, derrière sommation de quoi, en fait, on est immobilisé sur la jetée.
C'est-à-dire que tu as des flics quelque part qui t'annoncent les gaz arrivent, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand t'entends derrière sommation,
Donc on est sommé de quoi? D'aller vers le parc où il y a les blindés?
Et après ça s'appelle une nasse là, ce que tu me décris là.
Oui, c'est ça.
C'est le but, c'est la répression. Enfin, Siamo Tutti antifasciste, c'est pas pour rien qu'on chante quoi. Ah bah l'état policier c'est aussi ça quoi.
Donc on est cerné en gros, on est nassé.
Nassé comme on dit maintenant. Comment tu vas? Jusqu'à maintenant, tout va bien.
Tu es avec la personne qui est en fauteuil roulant là?
Ouais, je suis connecté.
D'accord. Bon courage à toi et merci.
Et dans ces moments-là, c'est bien de...
Comme ils disent, de rester en binôme au moins et...
Ah, mais là, c'est en canôme.
On avance.
Finalement, la police laisse une voie de sortie à la manif.
On rappelle qu'on avance ensemble, mais doucement, histoire d'attendre tout le monde à la fin, que personne ne soit laissé tout seul. On vous invite à faire attention dans les endroits où il y a des grands trous. Restez soudés, restez ensemble, on évite d'avoir des grands espaces où il n'y a personne.
On finit par passer devant une rangée de Robocop casqués, masques à gaz, boucliers et matraques à la main, prêts à charger les milliers de personnes qui défilent tranquillement et dignement. Un haut-parleur de l'orga invite à rester calme.
On reste calme, avancer tranquillement et ensemble. On reste en bloc, on avance. On peut faire le signe d'avancer? Ça vous va? Super, top. Continuez à avancer les petits potes, c'est super. Si on peut éviter d'augmenter le niveau de tension, c'est top.
Explosion, la police charge la queue de cortège. Tir de grenade lacrymo. Des nuages de gaz se forment.
Allez les potes, on garde les yeux en l'air.
Manifestantes et manifestants demeurent stoïques. No panique. Personne ne bouscule personne. Après quelques dizaines de mètres dans le gaz, votre serviteur se retrouve devant un goulet d'étranglement entre le mur d'un immeuble et un mur de gens, toujours très calmes, qui longent les buissons d'un passage qui va se rétrécissant. Ça bloque. Je suis alors pris d'une sorte de trouille froide, calmement terrorisé. J'ai à la fois très peur, mais j'ai aussi confiance dans les gens de la manif. Goutte de cette rivière humaine, à ce moment-là, je fais partie des autres, les autres font partie de moi, nous sommes ensemble, dans ce moment d'adversité, nous ne faisons qu'une. Aveuglé, asphyxié, avec les autres, dos au mur, je longe lentement l'immeuble, toujours dans le gaz, on finit par dépasser le goulet d'étranglement. Miracle ! Un local à poubelle où je me réfugie avec d'autres personnes.
Vache.
Je vomis de la lacrymo dans une poubelle et au bout de quelques minutes, apparaît une personne masquée qui me propose une fiole de sérum physiologique pour me soulager les yeux.
Besoin de quelque chose ici? Ouais, vous en voulez?
Oui.
Merci. Besoin de quelque chose ou pas?
Avancez parce que les flics aussi vont avancer, donc restez pas là.
Quelques instants plus tard, avec un pulvérisateur, une autre personne m'asperge le visage d'eau et de Malox, médicament pour l'estomac, mais qui calme aussi l'irritation de la lacrymo.
Merci.
Je suis retapé en quelques minutes. J'ignore qui sont ces soignantes et soignants surprises qui disparaissent comme elles sont apparues.
Médic, pardon.
Merci à ces deux copaines inconnues venues me soulager, merci pour le soin et la solidarité, merci à tous pour votre calme, votre maîtrise, notre cohésion. J'ai eu peur comme rarement, mais dans ce moment pénible et flippant, je ne me suis jamais senti seul parce que j'étais avec vous comme vous étiez tous avec moi.
Ça va ? On rentre là au parc de manière très compacte, toujours très bien accompagné par les haut-parleurs et le plaisir de tomber un vieux de la vieille de Touraine en lutte. Coucou mon Laurent.
Ouais, salut, bah, ça fait plaisir de retrouver des gens comme toi. Alors nous on est venu à 5 là, on s'est fait gazer, on s'est fait nasser. Alors
toi t'as eu la mauvaise idée de partir avec le cortège nord. Moi j'ai pris le cortège sud qui allait à la plage.
On arrive en retard, on est arrivé au premier cortège effectivement. Et tout de suite ça a canardé, tout de suite ça a matraqué, on s'est effectivement nassé. Bien évidemment comme je suis un abruti, j'ai pas pris de masque. Et des gens qui tentent des masques.
Si on aurait pris, tu te serais fait prendre au contrôle.
Alors nous on s'est pas fait contrôler par contre.
Ah oui.
Non non, on les a laissés dans la voiture. Ah bah oui, on n'est pas anarchistes pour rien. Et, et du coup, voilà, comme toi, une solidarité. Des gens qui te proposent du surinfi, d'autres qui t'aspergent dans une espèce de produit qui te fait du bien. Et puis nous, en fait, avec les drapeaux, on se retrouve, mais c'est chouette, quoi. Il y a une belle ambiance ici. Puis on a vu la mer, c'est bien.
Ouais.
On a vu la mer.
Ah là, pour le signe du V inversé au-dessus de la tête, ça veut dire silence. Que des informations vont encore être données.
On va au parc tout en douceur. Faites passer.
On va au parc tout en douceur.
Il faut bien avancer parce qu'on se fait pousser, figurez-vous, par les flics derrière. On avance gentiment, groupé. Tout se passe très bien, mais on veut penser aux camarades derrière. On avance bien groupé pour que Ilé puisse nous rattraper et qu'on fasse masse. On avance en tournant, donc ne ralentissez pas et restez groupés. On tourne sur la gauche. On reste groupé. Les virages, c'est souvent un endroit où on se disperse. Alors restons concentrés, restons soudés. On tourne à gauche, on avance.
Objectif du cortège, rejoindre le parc d'où il est parti. Nous traversons une cité. Soudain, au loin, comme un naufragé dans l'océan de fenêtres de la façade d'une barre d'immeubles, apparaît un petit point jaune fluo qui gigote. Un habitant de la cité salue le cortège en agitant un gilet jaune à sa fenêtre. La foule lui répond par des cris de joie. Plus loin, des habitants de rez-de-chaussée d'immeubles ouvrent leurs fenêtres pour distribuer de l'eau.
Une fenêtre ouverte en bas d'un immeuble et une dame a ouvert sa fenêtre et donne de l'eau de son robinet aux manifestants qui veulent remplir leurs bouteilles. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Hier, hein, c'était pareil sur le chemin. Un monsieur qui était accoudé au portail de son pavillon a ouvert sa maison pour que les manifestants remplissent leurs bouteilles. C'est drôlement gentil, madame, merci.
Non, c'est pas quand même extraordinaire de donner de l'eau, c'est pas extraordinaire.
Il n'y a pas beaucoup.
Mais moi, je veux bien, mais je trouve que c'est dommage que les vitrines soient cassées.
C'est une banque.
Non, non, mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il faut que les paysans, il faut quand même qu'ils arrosent l'eau. Je comprends pas. Moi, je ne comprends plus rien.
Merci beaucoup.
Il y a des choses qui vous plaisent pas, mais pourtant, vous donnez de l'eau quand même.
Bon, parce que vous avez soif, c'est pas compliqué.
On est là pour le commun, moi.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Ah, si.
Je comprends pas beaucoup. Mais je pense que les agriculteurs, ils bossent aussi.
On est avec des agriculteurs. Il y a la Confédération Paysanne.
Et moi, je ne suis pas contre qu'on fasse des réserves d'eau pendant l'hiver.
Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Ça tombe dans les nappes phréatiques et c'est un accaparement.
Mais quand elles sont pleines, qu'est-ce que ça peut faire? Mon fils m'a fait la leçon à midi. Hein.
Bon, merci en tout cas beaucoup pour votre eau. Merci beaucoup.
Donc la dame, elle n'aime pas beaucoup les manifestants qui cassent des banques, mais elle leur donne quand même de l'eau. Une autre voisine qui donne de l'eau aux gens qui viennent remplir leurs gourdes.
Il est nécessaire de continuer à avancer pour les personnes qui sont à l'arrière, s'il vous plaît.
sur le chemin du retour, sur le mail, il y a le monument aux morts dans notre dos et les milliers de manifestants et manifestantes sont en train de refluer vers le parc et on tombe sur ce monsieur qui est en train de brandir une grosse bouteille d'eau ostensiblement pour en proposer à qui on veut. Une camarade est en train de remplir sa gourde. Bonjour Christian, tu fais partie de la manifestation ?
Non.
Tu es en train de distribuer de l'eau aux gens qui en veulent ?
Ben, y a les gens qui ont soif, donc on donne de l'eau aux gens qui ont soif. C'est aussi con que ça. Moi je suis content de voir des jeunes manifester. Moi j'aime bien voir les jeunes qui manifestent, qui veulent refaire le monde. Quand on a manifesté contre le pass sanitaire, qui était une grosse merde, on n'avait pas de jeunes. Et là je vois plein de jeunes qui sont sympas, qui ont envie d'un monde meilleur et tout. Moi ça me coûte pas grand chose d'aller à la fontaine chercher de l'eau et de les ravitailler.
Il se dit à la radio que ces gens sont des éco-terroristes quand même.
Oui mais j'ai pas peur. Non j'ai pas peur. Même pas peur.
Quand même.
Je veux dire, c'est Darmanin qui dit ça, c'est un gros voilà, c'est tout. Enfin, ça me faisait plaisir, il faisait chaud. Et les CRS avaient chaud dans leur uniforme, machin, tout noir, ils avaient chaud. J'espère qu'ils ont passé une sale journée. Voilà.
Est-ce que je peux te demander une gorgée d'eau,
oui,
s'il te plaît ? Merci beaucoup, Christian. Bonne journée.
Salut, bonne journée à vous.
Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véreux, il y a les députés véreux. Il y a les généraux, assassins et bourreaux, bouchers en uniforme, vive le son, vive le son. Bouchers en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. À nom de Dieu, faut en finir, à nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps, j'aimerais souffrir, assez longtemps, j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion.
Après avoir descendu le mail du monument aux morts, le cortège atteint enfin une plage de La Rochelle. Des centaines de manifestantes et manifestants se déshabillent et vont se baigner en chantant, suivis dans l'eau par une fanfare qui s'époumonne dans les flots. Baigneuses et baigneurs se lancent alors dans une grande farandole aquatique, tourbillonnent joyeusement en rond dans l'eau, comme des Indiens victorieux. Quitte La Rochelle quadrillée par la police, encore un contrôle sur le chemin du retour au village de l'eau de Saint-Martin-les-Mels, et le soir, c'est briefing et bilan d'action sur le champ de foire du village. Avant de parler du samedi, retour sur la manifestation de la veille, vendredi dans les champs, dont l'objectif était de poser un panneau devant une usine de semences du groupe agro-industriel Terena.
Terena, on n'a pas réussi à atteindre cette cible. On a été empêché par le fait que la gendarmerie a dressé un mur de feu en incendiant un champ de blé pour nous empêcher d'atteindre cette cible et qu'on n'a pas réussi à trouver les formes pour déjouer cet acte criminel de folie complètement irresponsable. Mais on n'a pas réussi à toucher cette cible et ça, il faut qu'on trouve dans les mois, les semaines à venir, les formes pour déjouer cet harcèlement, ce durcissement répressif. Aujourd'hui, on savait que ça allait être très très difficile d'arriver jusqu'au port, au terminal agro-industriel. On savait qu'ils allaient sans doute militariser, comme ils l'ont déjà fait le vendredi, toute une zone en interdisant les manifestations. Et dans leur idée, on n'allait même pas réussir à se rassembler, à manifester. Même si on n'a pas réussi à atteindre le terminal agro-industriel, même si on n'a pas réussi à atteindre Terena, on peut quand même se féliciter d'avoir réussi, même si c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la situation, mais d'avoir déjà réussi à se rassembler, manifester. Et c'est ça qui est à la fois terrible et en même temps fort, d'avoir réussi, malgré cette adversité, de s'être rassemblé, d'avoir manifesté ensemble. Et aujourd'hui, malgré ces dispositifs, malgré les difficultés, on a quand même réussi à les déjouer un minimum, puisque vendredi, il y a 300 camarades qui sont partis en vélo du village et qui ont réussi à... 600. Il y avait 800 camarades cyclistes qui sont partis du village de l'eau et qui ont réussi, à travers un moyen extrêmement ingénieux, développé par nos camarades naturalistes des terres, à désarmer une bassine grâce à des lentilles d'eau. Alors je vous invite à aller découvrir cette innovation des naturalistes qui sont encore plein de ressources. Ce matin, on savait qu'on serait attendu, on savait que ça serait interdit, et malgré ça, c'est nos camarades paysans et paysannes qui ont réussi, dès 6h ce matin, à atteindre le terminal agro-industriel et à bloquer le site tôt ce matin à 6h et à tenir 4 heures, à bloquer le site 4 heures. Et juste pour vous dire que même s'il y a un peu de frustration de ne pas avoir réussi à atteindre les cibles qu'on voulait tous collectivement, il faut quand même savoir que ça fait une semaine que c'est vraiment le bazar chez eux, qu'il y a des sites qui sont fermés, que le port est complètement désorganisé. En fait, cette mobilisation a déjà eu un impact énorme sur ces agro-industriels. Et c'est à nous toutes et tous, dans les prochaines semaines et les prochains mois, de trouver des nouvelles formes. On ne le fera pas, nous, au sein de la coordination bassine. On va devoir le faire tous et toutes ensemble, de trouver les formes justes qui permettent de concilier ce soin et à la fois la détermination et les formes d'intervention qui nous permettent de gagner ces luttes. Nos bassarades.
On va donner la parole à un camarade syndiqué, Christian Porta, qui bosse dans l'agroalimentaire, qui bosse chez Envivo et qui subit de plein fouet tous ses engagements syndicaux militants.
Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir d'être là et de voir autant de monde. Donc moi, comme il a été dit, je m'appelle Christian Porta, je suis militant en révolution permanente et je suis ouvrier dans l'agroalimentaire et syndicaliste aussi dans l'agroalimentaire, et je travaille pour le géant de l'agrobusiness qui s'appelle Envivo. D'ailleurs, le port, les silos aujourd'hui qu'on allait bloquer appartenaient justement à mon patron, et pour moi c'était important d'être là et important de soutenir les paysans et paysannes qui se font exploiter tout comme moi, bloquer justement ce port. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi et à mes collègues à mon usine? Moi je viens de Metz, de Moselle. Et il y a quelques mois de ça, mon patron il m'a convoqué dans son bureau et il m'a annoncé qu'il allait me licencier. Il m'a mis en mise à pied, il m'a expliqué que j'allais être licencié pour harcèlement. Harcèlement contre qui? Harcèlement contre mon patron. Et en gros, ce qu'il me reproche, c'est de venir trop souvent lui réclamer des augmentations de salaire et des meilleures conditions de travail pour mes collègues. Malgré le refus, bien entendu, de l'inspection du travail d'autoriser mon licenciement, malgré les condamnations des tribunaux, que ce soit des prud'hommes, mais aussi des tribunaux judiciaires et tout, mon patron, bah, il m'a quand même licencié, en gros. Et à ça, mes collègues, ils ont répondu par la meilleure des façons. Mes collègues, ils se sont mis en grève et ils ont fait plus de 7 semaines de grève pour réclamer ma réintégration. Et je vous demande de faire du bruit pour mes collègues. Mon patron, justement, lui, bah, la répression, c'est quelque chose qu'il connaît énormément. Parce qu'au-delà de réprimer des syndicalistes combatifs, il faut savoir que nous, notre organisation, moi je suis à la CGT, et dans notre boîte, on a obtenu quand même les 32 heures payées 35, des augmentations de salaire. On a réussi même à redistribuer la production pendant le Covid à la population, alors qu'il y avait des gens qui faisaient des files alimentaires parce qu'ils n'arrivaient plus à se nourrir. Nous, on avait réquisitionné notre production pour la redistribuer. Et c'est ça aujourd'hui que mon patron, justement, il veut faire taire et il veut supprimer. Et la répression, comme je disais, c'est quelque chose qu'il connaît. Il y a quelques mois de ça, c'est les camarades de XR La Rochelle qui en ont fait les frais quand ils ont mis justement une banderole sur les silos qui ont été bloqués ce matin, qui sont passés au tribunal pour juste avoir mis une banderole qui dénonçait justement le rôle de l'agrobusiness dans la destruction de la planète.
C'est tout à fait normal qu'on s'est solidarisé avec les camarades de XR, parce que la répression qui touche aujourd'hui les mouvements écolos, c'est la même qui touche le mouvement syndical, et il va falloir qu'on fasse front ensemble, parce qu'aujourd'hui la répression elle s'abat sur nous les militants syndicalistes, mais aussi sur les militants de la Palestine ou sur nos frères et nos sœurs kanak, et il va être important qu'on fasse front face à toute cette répression les camarades, pour gagner. Et au-delà de ça, il y a une question qui est centrale pour nous aussi, même à l'usine, c'est de faire en sorte que les questions écolo et les questions justement d'augmentation de salaire, etc., elles sont communes. Il ne faut pas qu'on oppose la fin du mois et la fin du monde. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis venu aussi. C'est pour dire qu'il va falloir qu'on s'organise toutes et tous ensemble, les travailleurs et les travailleurs, les écolos, tous les mouvements, nos camarades paysans, etc. Parce qu'on a le même ennemi commun. C'est ce système capitaliste, et ça a été dit avant par nos camarades internationaux. Et que le meilleur moyen d'y répondre, les camarades, ça sera comme notre camarade Mariama, sans papier, qui est venu ici le dire. Ce sera par la grève générale. Et on forcera les directions syndicales, s'il le faut, à y appeler, à le faire, les camarades, et à renverser ces sociétés qui nous exploitent et qui nous oppriment. Merci, les camarades.
Merci à Christian. Et nous allons accueillir à présent les camarades de la Legal Team.
Bonsoir à toutes et à tous, ici le bureau des problèmes, la Legal Team. On voulait vous dire un grand bravo à toutes et à tous pour cette super journée de mobilisation. On voulait aussi féliciter toutes celles et ceux qui ont fait une petite visite touristique en commissariat aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de personnes qui sont rentrées et sorties le même jour pour des contrôles d'identité. Bravo! Bravo d'avoir tenu la défense collective!
On a encore une petite dizaine de camarades qui sont enfermés ce soir au commissariat de La Rochelle. Libérez nos camarades!
Libérez nos camarades!
On a créé une boucle que vous pouvez retrouver sur l'InfoLine ou l'InfoTraflic. Et cette boucle-là, elle est faite pour qu'on s'organise, pour que demain, on soit énormément devant le commissariat de La Rochelle. Parce qu'ils ont besoin de savoir qu'on est là, pour montrer aux flics aussi qu'on laissera personne seul face à la répression, et pour montrer qu'on tiendra notre défense collective. Alors demain, rendez-vous devant le commissariat de La Rochelle pour les soutenir. Ils sont en garde à vue, ils vont passer la nuit en garde à vue, ils seront demain matin en garde à vue, tant qu'ils y seront, il y aura des rassemblements devant le commissariat, n'importe quelle heure. Et maintenant les médics! Bonsoir. Alors nous, du coup, on va vous faire un petit bilan de comment s'est passée la journée pour nous. On a eu 4 hospitalisations, du coup des personnes qui sont parties à l'hôpital. On n'a aucun pronostic vital engagé. On décompte à peu près dans ce qu'on estime une 50aine de prises en charge par les médics. On n'a pas les comptes très précis parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire nos bilans exacts. Du coup, on reviendra vers vous pour des chiffres un peu plus exacts dans les prochains jours. Mais c'est à peu près ce qu'on estime. Au niveau de notre dispositif, tout a plutôt bien fonctionné pour nous. Notre ambulance a pu pénétrer dans La Rochelle très tranquillement et de manière complètement chill. Malgré les contrôles quand même. Elle a pu circuler dans La Rochelle et évacuer les blessés qui lui étaient destinés. Et on aimerait aussi apporter un grand remerciement à toutes les personnes qui nous ont prêté leur voiture et qui ont répondu à nos nombreux appels qu'on a fait tout au long de la semaine au village de l'eau. Ces personnes qui ont assisté à des briefs et qui ont été là pour nous et pour vous, pour pouvoir transporter les blessés tout au long de cette journée et de la journée d'hier où il n'y a pas eu de transport de blessés. Mais ils étaient quand même là, ils étaient prêts à vous transporter au cas où il y en avait. Il n'y a pas eu d'entrave à nos transports de blessés et les blessés qui ont été évacués par le SMUR ont été évacués aussi tranquillement. Et aussi, on aimerait remercier toutes les personnes qui, vendredi, sont parties en cortège avec notre ambulance, l'ont accompagnée et sont restées pendant des heures au soleil à attendre qu'elle soit libérée. Merci vraiment énormément à vous, c'était un geste très précieux pour nous.
On est médic aussi. La médic, c'est une activité politique. Du coup, on voulait faire un petit point message politique par rapport à la médic. Tout le monde est toujours très enthousiaste, mais super sympa avec nous et remercie de ouf. Et bah, c'est super chouette. Mais on voudrait aussi rappeler, on n'a pas envie d'être des héros. On n'est pas des héros. On ne veut pas être héroïsé. On ne veut pas être applaudi quand on fait rien. On est autant important pour la lutte que chaque personne qui est là. Et en fait, on en a marre d'être mis sur un piédestal. On veut valoir autant que tout le monde. Franchement, ça nous gêne et ça nous met mal à l'aise d'être applaudis quand juste on existe dans l'espace. Et c'est sympa, mais franchement, SVP, on aimerait être comme tout le monde et on aimerait un fonctionnement vraiment horizontal avec ce que tout le monde fait dans la lutte. Bah voilà, vous êtes libre d'applaudir ou pas cette prise de parole. Et voilà.
Et aussi, si vous avez été blessé et que vous n'êtes pas encore passé à l'infirmerie, n'hésitez pas à y aller, même si vous avez déjà évalué votre blessure pendant la manifestation, pour qu'il y ait une réévaluation et qu'on soit sûr que tout va bien. Et aussi pour que de notre côté, du coup, on puisse faire un recensement qui soit exact et qu'on puisse tromper dans la presse le discours qu'ils vont tenir et tenir un vrai discours qui sera véridique. Voilà.
Eh ben, pas grand merci à la médic, alors. On fera bien les bilans demain, on va prendre le temps de soigner ça. Mais il y a quelque chose dont on doit tous s'enjailler à l'heure qu'il est. C'est que grâce à toute l'énergie qui a été donnée dans cette vallée de l'Argentière pendant une semaine, grâce aux camarades qui ont traversé les frontières et qui étaient sur scène ici, et ceux qui ont été à nos côtés dans les cortèges, le monde entier sait que les méga-bassines, c'est de la merde! Dans les très belles choses qui se sont passées aujourd'hui, mais chacun a ses images, etc., mais on était plusieurs à avoir noté qu'il y a eu un très très beau passage quand les deux cortèges se sont rassemblés et sous les bombes lacrymo qui poussaient le cortège, on est passé dans le quartier de Mireuil. Et là, on a eu un accueil, mais un tellement bel accueil. Et qu'évidemment que les luttes environnementales, elles doivent rencontrer et s'implanter dans les quartiers, cette alliance fondamentale. Et on a eu un tellement bel accueil, on a eu de la curiosité, on a eu des sourires, on a eu de l'eau. Un grand, grand, grand big up aux gens de Mireuil. Alors ça continue demain, il y a énormément d'ateliers qui finissent, il y a des bilans qui vont être faits. La fête continue, demain soir ça sera certainement une espèce de fête de fin de festival ou de village de l'eau, c'est pas un festival. Et également rééditer cet appel, on a mis 2 semaines à monter tout ça, il va falloir qu'en 3 jours tout reparte dans les camions. Donc si parmi vous, il y en a qui sont en vacances, qui ont du mal à partir de la vallée de l'Argentière, on recrute très clairement et vous êtes les bienvenus à aller vous inscrire au point accueil. Et alors, on fera ça très très vite et ce sera merveilleux. J'avais aussi envie d'apporter une double pensée. On l'a fait déjà, mais il faut le répéter à tous les camarades qui sont pas venus parce qu'ils ont été blessés, qui sont pas venus parce que ça continuait à vraiment trop leur faire mal aux tripes. Et j'espère que ce qu'on aura développé là leur donnera la force de nous rejoindre la prochaine fois. On pense très fort à eux, très très fort. À LE. Et puis également à tous les camarades inculpés. Ça fait 3 ans qu'on enchaîne les procès à Niort, à Poitiers, etc. Et je pense aux 15 camarades qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils sont interdits de territoire en Deux-Sèvres. Et moi, le plus beau souvenir que j'ai aujourd'hui, et puis qui marquera jusqu'à la fin de ma vie, mais je pense pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est cette grande, grande, grande baignade sur la plage de la concurrence. Aussi, je vais vous inviter à vous lever et je vous propose qu'on fasse tous ensemble le tour de la régie son en faisant non, pas Sarah Tourbillon, non, pas Sarah Tourbillon, on tourne, on tourne.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de la seconde partie de ce reportage sur la grande manif du samedi 20 juillet 2024 qui s'est achevée comme tous les soirs du village de l'eau par des super concerts. Vous pouvez télécharger cette émission via notre site polemix-et-la-voix-off.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Nova Savane.
Nova Savane, tout le monde.